France Culture.
Réplique, le monde de Philippe Roth avec Astrid von Bousikist et Marc Weitzman. Philippe Roth est un immense romancier. Avec une intensité jamais démentie, son œuvre prend le monde à bras-le-corps. Il est mort le 22 mai 2018, 7 ans déjà, et je fais partie de ceux qui ne se consolent toujours pas de sa disparition. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de parler de Roth, de réfléchir avec lui, de rouvrir ses livres, par l'essai d'Astrid von Bousikist, L'ère des impostures, et par celui de Marc Weitzman, La part sauvage. Vous commentez tous deux La tâche, The Human Stain, paru au tout début de ce siècle. Partons donc de ce roman. Son héros s'appelle Coleman Silk. Qui est-il? Que lui arrive-t-il? Astrid von Bousikist.
Coleman Silk est donc le héros de La tâche et il y a une double intrigue, je crois, dans ce livre. Coleman Silk est professeur de lettres classiques dans une université du nord de l'Amérique, Athéna, qui apparaît dans plusieurs des romans de Roth. Un jour, il fait l'appel en classe et deux étudiants sont absents depuis un certain temps. Il fait l'appel et, ne recevant pas de réponse, il se demande si ces deux étudiants sont des zombies, spooks, dans le texte anglais, ou s'ils existent vraiment. Il se trouve que spook, c'est aussi un terme dérogatoire, un peu vieillot, l'équivalent du N-word en anglais, donc nègre. Et il se trouve que ces deux étudiants, en effet, sont noirs. Donc Coleman a commis l'irréparable et victime des justiciers du campus, accusé de racisme. Mais ce que ne savent pas ces justiciers, du politiquement correct, comme on disait alors, c'est que Coleman est noir lui-même. Il est devenu blanc et juif au fil de sa vie, de son imposture d'émancipation. Et il tombe. Sa chute n'est pas provoquée par cette imposture que l'on apprend à connaître en tant que lecteur tout au long du roman. Il tombe pour fait de racisme.
Oui, il tombe pour fait de racisme, donc c'est le premier grand paradoxe de ce livre. Cet homme qui avait fui sa condition de noir, non pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il voulait sortir de la tribu, du nous. Le nous, c'est-à-dire un noir, c'est d'abord un noir, un blanc, ça peut être un visage, et incolore. Donc c'est ça qu'il a choisi, et effectivement, lui tombe pour racisme. Marc Weitzman.
Il tombe pour raciste et puis ensuite il va tomber pour plein de choses puisque en parallèle, il a une relation avec une femme qui a d'abord la moitié de son âge, qui est d'une autre classe sociale et qui passe pour être illettrée. On se rendra compte au fur et à mesure du livre qu'elle n'est pas si illettrée que ça.
Non, elle n'est pas du tout illettrée en réalité.
Pas du tout. Mais il semble être, en plus de tout le reste, en plus du racisme, il semble exploiter une femme sexuellement. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont là. Et puis par ailleurs, il y a le troisième point qui n'est pas le moindre, qui est l'orgueil de Coleman Silk, sa capacité à la colère. Le livre commence par là. Le livre commence par une réflexion sur la colère et la colère d'Achille. L'Iliade comme fondatrice de la culture occidentale et la colère comme premier sentiment de la culture occidentale. Et en fait, le livre est aussi une réflexion un peu là-dessus. C'est-à-dire que le personnage de Coleman Silk tombe aussi parce qu'il est victime de son tempérament colérique et de son incapacité à trouver la bonne stratégie par rapport à ce qui lui arrive. Il y a tout ça dans le livre.
Il y a tout ça dans le livre. Et alors justement, ces ennuis commencent avant même cette histoire de « Do they exist or are they spooks ?» parce que il fait un cours sur Euripide et une de ses étudiantes, Helena Mitnick, trouve ces pièces dégradantes pour les femmes. On est à l'ère du politiquement correct. Pas encore le wokisme, mais enfin, tout est déjà là.
Oui, tout est déjà là.
Tout est déjà là. Et alors, un chef du département, une Française, Delphine Roux, férue de l'avant-garde, telle qu'elle, etc., le convoque, Coleman Silk, et elle essaye d'arranger les choses, en apparence. Et la conciliation est impossible. parce qu'il lui dit « Ma chère amie, ces pièges, j'ai passé ma vie à les lire et à y réfléchir. » Delphine Roux, jamais dans la perspective féministe d'Héléna, Coleman, ni dans la perspective juive de Moïse, pas même dans la perspective aujourd'hui à la mode du perspectivisme nietzschéen. Donc ça explose, et après coup, Delphine Roux va faire partie de ces persécuteurs. Elle va même prendre la tête de la persécution, et c'est elle, je crois, si je ne me trompe, qui dénonce la relation avec
Coleman,
avec la jeune femme, oui.
Oui, et avec des motifs avec tout à fait fauniens, avec
Fonia
des motifs
Farley
exactement, dont l'ex-mari d'ailleurs, puisque Coleman est devenu à la fois blanc et juif, et il meurt aussi en tant que juif. C'est-à-dire, ils se font assassiner tous deux, Fauniat et Coleman, par Les Farley, qui est l'ex-mari de Fauniat, un antisémite fou, vétéran de la guerre du Vietnam. Mais pour revenir à Delphine Roux, qui est aussi une impostrice, si je puis dire, dans ce roman, tout ce qu'elle dit de Fauniat est bien la preuve que son féminisme n'est que de façade, est une imposture aussi. C'est-à-dire, elle veut venger Helena Mitnick face à Coleman, mais en vérité, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle dénonce des rapports entre Coleman et Fauniat est bien la preuve qu'elle méprise cette femme des basses classes dite illettrée, alors qu'elle ne l'est pas, on l'apprend à la fin du roman.
Oui, mais c'est pas du tout la même imposture que celle de Coleman. Coleman, encore une fois, il ne choisit pas la majorité contre une minorité. C'est un héros anti-généalogique qui veut se faire lui-même, un pur américain, et Philip Roth dit un pionnier du jeu. Il veut être un individu et rien qu'un individu, n'est-ce pas, Margaret Spahn?
Oui, moi, plutôt qu'un imposteur, je dirais que c'est un traître.
Voilà.
Qui est tout à fait différent. C'est là où il y a une différence de lecture entre nous. Il trahit, et en plus, dans le contexte de l'Amérique et de la ségrégation de l'époque, parce que l'époque est importante, au moment où il décide de quitter sa communauté, son appartenance, sa généalogie, pour s'inventer une identité juive, on est dans les années 50, les Noirs sont encore complètement ségrégés, il ne choisit pas le combat des droits civiques qu'il pourrait parfaitement choisir pour essayer d'émanciper, d'être solidaire avec sa communauté et d'émanciper tout le monde, il choisit la voie solitaire de l'émancipation individuelle qui passe par le mensonge et par une identité réinventée. Donc c'est vraiment un traître, et toute la scène cruelle quand il explique à sa mère qu'il ne la reverra plus jamais et qu'il coupe complètement les liens alors qu'il est le fils favori qui plus est. Donc étant le favori, il a les armes affectives pour être cruel vis-à-vis de ceux qu'il aime, et donc pour essayer de se fonder lui-même, et choisit la minorité juive parce que c'est la minorité qui, à l'époque, est en voie d'assimilation avec succès. C'est celle qui est en train de gagner à l'époque. Plus qu'une imposture, c'est vraiment... Parce que l'imposture suppose presque un mensonge, alors que Coleman Silk essaie d'être sincère par rapport à ses désirs, qui est... Je vais me fonder, il essaye, comme le dit Roth d'ailleurs dans le bouquin quelque part, il s'agit d'être libre, de se battre pour être libre. C'est ça la grande phrase.
Je précise quand même, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'il fait partie de ces Noirs à la peau claire. On ne voit pas tout de suite qu'il est noir. Et c'est quand il s'en rend compte qu'il se dit, voilà, qu'il peut se choisir lui-même, être son propre fondement. Astrid von Bosekis.
Oui, moi je préfère le terme d'imposture plutôt que de traîtrise, même si la traîtrise, dans tous les romans de Roth, tient une place particulière. Et la traîtrise a quelque chose à voir avec, me semble-t-il, le savoir. L'éducation, c'est-à-dire elle est éducatrice, la trahison, parce qu'elle nous dit quelque chose de la tâche humaine, justement. Tout le monde trahit et nous sommes tous imposteurs à un moment ou à un autre de notre vie. Pourquoi veut-il devenir non seulement blanc, mais aussi juif? Mark Weitzman a raison, c'est-à-dire Ellie, sa seule petite amie noire, le lui dit, tu vis dans les 6 km² les plus libres de New York, et le père de Coleman pense que les juifs sont comme des éclaireurs indiens, donc il choisit une minorité qui est en pleine ascension. Mark Weitzman en parle très bien dans son livre, il y a une sorte de complexe judéo-intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a une tribu aussi de ce côté-là. Mais je dirais pas traîtrise, même s'il trahit sa mère, parce que c'est une imposture émancipation. Alors ça, on l'a déjà dit, il veut s'émanciper, il veut être lui-même, mais il s'émancipe aussi pour le savoir, c'est-à-dire il pense ne pas avoir accès à ce qui lui importe, c'est-à-dire le savoir classique, et être noir, c'est être obligé d'y penser, alors qu'être blanc, c'est de ne pas être obligé d'y penser.
Obligé d'y penser, de penser à quoi?
De penser à la couleur, le blanc
c'est ça.
Est la couleur
être
de la liberté.
Oui, c'est ça, le blanc c'est la couleur de la liberté. Mais justement, il paye, et il fait payer le prix très fort.
Très fort.
Très fort. La scène avec sa mère est absolument déchirante. Mais justement, j'en reviens au titre. La tâche. On apprend ce que ça veut dire dans une méditation justement de Fauniat Farley. La tâche est en chacun à demeure, inhérente, constitutive. C'est pourquoi laver cette tâche n'est qu'une plaisanterie, et même une plaisanterie barbare. Le fantasme de la pureté est terrifiant, il est dément. Qu'est-ce que la quête de purification, sinon une impureté de plus ? La quête de la purification, oui, c'est, on poursuit ça, on veut redresser le bras tordu de l'humanité, c'est tout l'objet du politiquement correct, et aujourd'hui du wokisme, c'est le climat qui règne, justement, à Athènes, à la fin du XXe siècle. Mais la question se pose de savoir si, d'une certaine manière, Kahneman n'a pas non plus voulu laver cette tâche, c'est-à-dire en effaçant justement son passé, sa généalogie, et ça c'est ce qui lui permet d'accomplir son émancipation, mais c'est aussi une sorte de refus de la tâche constitutive, non ?
Moi je ne pense pas, c'est effectivement une question, j'en parle avec lui dans, dans le livre, je ne pense pas parce que au bout du compte, ce refus de la généalogie chez Coleman Silks, c'est une façon vraiment, lui il sait, il ne se ment pas à lui-même, il ne devient pas blanc dans sa tête. Il sait très bien ce qu'il a fait. La scène avec sa mère, qui est probablement une des meilleures du livre, où il lui dit qu'il ne la verra plus. Il est très très précis dans ce qu'il fait. D'ailleurs, Roth le dit dans le livre, enfin, cette cruauté est nécessaire à sa fondation. Il y a tout un passage où il explique en quoi la cruauté est nécessaire. En ce sens, il n'y a pas de recherche de pureté de ce point de vue. Il y a une dureté assumée, une forme de méchanceté assumée, qu'il estime nécessaire. C'est le premier point. Et l'autre point, c'est que toute la démarche de Roth dans pratiquement tous ses livres, c'est jamais l'autofiction, contrairement à ce qu'on a dit, mais c'est beaucoup, c'est l'autocompromission. Cette idée que la position de l'écrivain, la position du narrateur et la position du personnage, c'est toujours celle de « je ne suis pas parfait, je vais montrer comment je suis moi-même partie prenante de ce que je décris ». Je pense que Roth ne choisit jamais des personnages qui se croient purs.
Oui, justement, une toute petite note sur la pureté. Je crois que la pureté et l'impureté, ça traverse toute l'œuvre de Roth. Et tout ce qui est quête de la pureté, comme dans La Tâche, comme dans le complot contre l'Amérique, mène à la perte. Parce que, et ça c'est La Tâche, c'est-à-dire nous sommes tous impurs, et les Juifs en particulier sont impurs, et il faut l'assumer, on en parlera peut-être tout à l'heure. Dans La Pastorale, par exemple, La Pastorale américaine, à la fin, le narrateur dit que Dawn, donc la mère de la fille terroriste, lave la tâche de notre enfant, c'est ce que dit le grand Suédois, et dans Le Complot, ce fantasme de la pureté de Lindbergh mène aussi à la catastrophe, etc., etc. C'est un thème qui traverse, je crois, toute l'œuvre.
Justement, il n'a pas voulu se purifier de son ascendance, c'est vrai, mais il a voulu s'en émanciper.
Oui. Oui.
Et là, ça me rappelle, à contrario, et ça nous permet d'aborder un thème important, la dernière page de La Contre-vie. Oui, d'ailleurs, question de Pastoral. Un éloge étrange de la circoncision par Zuckerman. La circoncision, dit-il, affirme sans équivoque que tu es ici et pas là, et aussi que tu es à moi, pas à eux. On n'y échappe pas, tu entres dans l'histoire par mon histoire. La circoncision est tout ce que la pastorale n'est pas, et à mon avis, elle conforte le sens du monde qui n'est pas celui d'une unité sans conflit. Alors j'en parle aussi parce que vous faites de Roth, Mark Weitzman, une sorte de Coleman. C'est-à-dire, vous dites, c'est un juif anti-identitaire. C'est un individu. Il avait fait de l'arrachement à ce dont on vient la clé d'une vie en perpétuelle réinvention. L'individu comptait pour lui bien plus que la tribu, la liberté plus que la coutume. Est-ce que c'est ainsi vraiment que vous concevez le rapport de Roth aux Juifs, à la généalogie, aux aïeux, aux ancêtres, Mark Weitzman?
Je vais faire une réponse à tiroir. D'abord, ce passage de La Contre-vie sur la circoncision, c'est un des passages les plus remarquables, non seulement de ce livre, mais de toute son œuvre.
Absolument.
Et c'est probablement une des meilleures définitions de la circoncision que je connaisse. Le refus de la pastorale, c'est absolument vrai. C'est la circoncision introduit littéralement une rupture, une coupure, littéralement. Donc ça, c'est effectivement très profond. Et d'autre part, sur l'appartenance de Roth, alors il y a plusieurs choses à dire. Par ailleurs, La Contre-vie est quand même un livre où toutes les positions sont voisines dans le livre, celle de l'appartenance, celle de la non-appartenance, celle de la totale assimilation, celle de l'assimilation remise en cause. Il joue avec tous ces éléments, et de ce point de vue, La Contre-vie est probablement le livre sur les paradoxes de l'identité le plus profond, à la fois formellement et sur le fond, que j'ai lu. Je pense que c'est un livre qui devrait être à tous les programmes d'école, à mon avis, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'identité aujourd'hui. C'est un livre qui devrait être étudié dans tous les collèges sur ce thème précis pour montrer qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question.
Quand vous dites dans les collèges, vous êtes optimiste.
Oui, hein. Non, mais bon.
Dans les collèges au sens américain.
C'est ma définition de la pastorale, brièvement. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Il n'y en a pas dans le livre et celle que je vais faire n'est pas univoque non plus. Rod, dans la vie, enfin, dans la vie et dans la mort surtout, au moment de son enterrement, a refusé qu'il y ait le moindre signe juif. Il n'y a pas eu de cérémonie, il y a eu des discours, il a tout refusé, absolument tout. Pas de kaddish, rien. C'est un point. Maintenant, est-ce qu'il se définissait lui-même comme un individu pur sans généalogie ? Bien sûr que non. La définition qu'il donnait de lui, sur ce point, quand on discutait avec lui, c'est que religieusement, il n'était pas juif du tout. Historiquement, bien sûr qu'il était juif. Je le cite littéralement. Hein. Et donc, personne ne peut s'abstraire de son histoire. Et un des grands axes de toute l'œuvre de Roth, non seulement c'est la non-abstraction de l'histoire, mais c'est au contraire d'essayer de s'inventer une liberté, non pas en dehors de ce qu'il est, mais à travers tout ce qu'il est, à la fois juif, américain, homme. C'est-à-dire, à travers les déterminismes, essayer de trouver, de dépasser, de lutter et de dialoguer sur le mode de la lutte avec les déterminismes pour s'inventer une liberté. Et de ce point de vue, je vais finir là-dessus, le titre « Zuckerman enchaîné » de la série des Zuckerman. Le titre n'est pas là par hasard. C'est évidemment une réponse polémique au Prométhée délivré de Shelley, qui est le grand poème de la révolte contre les dieux pour instaurer la liberté absolue de l'individu. Et le titre dit pratiquement le contraire. Zuckerman ne parvient jamais à se libérer complètement. Et Rod joue constamment de cette opposition, en fait. Donc il n'y a jamais de réponse définitive dans ses livres. Il y a un jeu avec ce avec quoi on n'arrive pas à se libérer pour essayer de trouver une liberté à travers l'écriture, et peut-être exclusivement dans l'écriture, d'ailleurs, et pas nécessairement dans la vie.
Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord. En même temps que Opération Shylock, je crois, se termine par « Faites parler votre conscience juive », que le livre dont on parle, La Contre-vie, se termine sur la marque de la circoncision, veut dire, malgré la polyphonie évidemment de La Contre-vie, où on a tous les points de vue juifs, dit quand même quelque chose de très profond sur la judéité de Roth, me semble-t-il, en tant que juif historique.
Je vais livrer un exemple personnel. Enfin, j'ai commencé à le voir parce que j'étais obsédé par la montée de l'antisémitisme en France, qui prenait, quand je lui en parlais, dans le meilleur des cas, à la rigolade. C'est une anecdote dans le livre où je lui parle d'un employé d'une piscine qui explique qu'il est allé dans un mariage juif et il se disait le seul blanc, parce qu'il y avait des juifs autour de lui. Et Roth m'a répondu, la morale de cette histoire, c'est que les juifs ne devraient pas parler au petit personnel. Mais donc, il refusait de céder à cette... Mais une fois que les choses devenaient sérieuses, il était le premier, évidemment, à réagir à la manifestation d'antisémitisme. Ça se voit dans ses livres, ça se voyait aussi dans la vie. Et à ce moment-là, il devenait effectivement très juif. Il est évident que Roth n'était pas quelqu'un... Quand je dis que c'est le chevalier de l'individu, je ne sais plus comment je dis ça dans le livre, c'est évident qu'il n'y a jamais de refus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours à travers ce qu'on est qu'on peut dépasser ce qu'on est. C'est pas en refusant ce qu'on est.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il dit à de multiples reprises, être juif, c'est comme avoir deux bras et deux jambes. Enfin, ça va pour lui absolument de soi. Sur La Contre-vie, peut-être une toute petite remarque. Je trouve qu'un des passages les plus intéressants, c'est la lettre que Shouki, l'israélien démocrate, lui écrit. Et il dit une chose intéressante, je trouve, dans ce qui est de très grande actualité dans cette lettre. Il dit, si toi tu écris sur Lippmann, donc Lippmann, c'est le Ben Gvir
de l'époque.
Si toi tu écris sur Lippmann, toi en tant que juif, on va te croire parce que toi en tant que juif, on va t'identifier à Lippmann. Et il faut que tu tiennes un autre discours, il faut que tu tiennes le discours de l'israélien démocrate. Et c'est un passage assez poignant qui fait la différence entre le discours ad intra et ad extra. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Israël lorsqu'on n'y vit pas, lorsqu'on vit justement en diaspora? Je rappelle que dans Opération Shylock, tout porte sur le diasporisme, c'est-à-dire pour être un bon juif, il vaut mieux ne pas habiter en Israël. Voilà, je voulais juste rappeler ce fait dans La Contre-vie, cette lettre.
Alors, Opération Shylock, en effet, le sosie, le double de Philip Roth, qui est un personnage central du livre, ce double invente le diasporisme. La solution pour les Juifs, c'est de quitter Israël et de vivre en diaspora, et ils sont très bien accueillis en Pologne notamment. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on vit un chassé-croisé. C'est-à-dire, beaucoup de Juifs, c'est la Yérida, beaucoup de Juifs quittent Israël, fatigués qu'ils sont par la guerre interminable, par les dissensions aussi, quasi-guerre civile, et un certain nombre de Juifs aussi quittent les pays européens parce que pour Israël, parce qu'ils n'en peuvent plus de l'antisémitisme. Donc, enfin, c'est chassé-croisé, la réalité de ce temps, qui devrait d'ailleurs, par son paradoxe, intéresser beaucoup Philippe Roth. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense à lui en ce moment. Je dis, l'époque, c'est vraiment un nouveau sujet pour Philippe Roth.
À plus d'un titre, il y a effectivement, on a entendu les gens, les étudiants et les militants pro-palestiniens à Columbia et ailleurs, littéralement formuler la théorie du diasporisme. Retourner chez vous, ça voulait retourner en Pologne, littéralement.
Oui, ils l'ont dit, oui. Absolument.
Ils l'ont dit, ils l'ont articulé comme ça. Juste un dernier point sur la contre-vie. Il y a effectivement la lettre de Chouki, mais il y a toute la réflexion de Zuckerman dans le livre sur Lippmann, qui est très intéressant. Parce que Lippmann, c'est effectivement un Ben-Gvir, mais comme c'est sous la plume de Philippe Roth, c'est un Ben-Gvir intelligent, même redoutablement intelligent. Et les commentaires que fait Zuckerman quand il rentre, sont très nuancés sur l'appréciation qu'on peut faire de militants de la droite dure israélienne. Il n'est pas en adéquation, mais il n'est pas non plus étranger. C'est très complexe.
Peut-être le serait-il devenu aujourd'hui, parce que Lippmann s'est beaucoup aggravé.
Un des problèmes de Roth comme écrivain, et comme peut-être pratiquement tous les écrivains, pour aborder le monde aujourd'hui, c'est que le niveau a considérablement baissé. Très difficile de faire des personnages intéressants avec le nombre d'imbéciles auxquels on a affaire dans la réalité. C'est un vrai problème romanesque.
Oui, c'est un vrai problème romanesque, mais il est vrai aussi que, en tant que romancier, Philippe Roth s'attache à ne jamais plaider de cause. Oui. Et donc, il y a toutes les dissensions de l'âme juive en Israël, ce qui le passionne, et il fait parler tout le monde. Et effectivement, chacun est au meilleur de lui-même. Et c'est ça qui est absolument frappant dans ce livre. Mais il y a aussi, pour en revenir à la tribu, il me semble que Philippe Roth est le plus génial créateur de fils de la littérature mondiale. C'est lui-même un fils. Et Zuckerman est un fils. Et c'est extraordinaire parce que Philippe Roth a été traité d'antisémite à cause de Goodbye Columbus. Il a subi un véritable traumatisme. Vous en parlez dans votre livre, Marie Weissman, à la Yeshiva de New York en 1962. On lui a dit ce que vous dites aurait plu aux nazis, ou à peu près. Eh bien, il en a créé Zuckerman. Mais les adversaires de Roth, et donc de Zuckerman, sont les parents de Zuckerman. Alors que les parents de Roth suivaient tout ce qu'il faisait avec une approbation et un enthousiasme total. Et donc, il problématise même ça. Il réussit à tout problématiser. Donc, Zuckerman est un fils, Roth est un fils, Marcus Messner, le héros d'indignation, est le fils choyé d'un père fou d'inquiétude pour lui. Et même dans le complot contre l'Amérique, vous le dites d'ailleurs, Marie Weissman dans ce livre, c'est une confidence qu'il m'a faite aussi, il a aimé faire ce livre parce que il réentendait ses parents dans cette uchronie absolue, puisque c'est Lindbergh qui arrive au pouvoir et qui justement nazifie quelque peu l'Amérique pendant 2 ans, et ben, c'est des conversations. Et il m'a dit, oui, j'ai fait réentendre mes parents. Oui. Et c'était son objectif, en quelque sorte.
C'est ses objectifs.
C'était pas annoncer Bush ou Trump.
C'est pas seulement un fils. Ces personnages sont tous des fils, effectivement. Mais pas seulement. C'est des fils préférés. C'est des fils choyés, tous. Et justement, pour cette raison, ce sont des fils rebelles. C'est 2 points très importants. Le fait d'avoir été choyé leur donne les armes pour se rebeller contre ceux qui les aiment. Et c'est cette position complexe qu'on trouve dans presque tous les personnages de Roth. Historiquement, l'équation à laquelle fait face Philippe Roth, biographiquement, dans sa génération, c'est la version judéo-américaine des années 50 de la double cravate, c'est-à-dire de la double exigence.
D'un côté, c'est quoi, racontez-la la blague.
La blague, c'est la mère juive qui offre 2 cravates à son fils, et le lendemain matin, il descend avec une cravate pour faire plaisir à sa mère, et sa mère lui dit qu'est-ce qu'elle a à l'autre, elle te plaît pas. Voilà. Il n'y a jamais de position bonne. Et ce qui s'est passé dans les années 50, au début, avec la génération de Philippe Roth, c'est que les parents conscients de ce qui arrivait en Europe aux Juifs pendant la guerre, beaucoup avaient de la famille qui était restée en Europe, étaient très conscients aussi de la chance qu'ils avaient d'être en Amérique à l'époque. L'Amérique était l'opportunité, était vraiment pour les Juifs la terre des opportunités. C'est une des grandes raisons de cette symbiose judéo-américaine dont on parlait tout à l'heure. Et donc, le mot d'ordre des parents aux enfants, c'était « faites quelque chose de votre vie ». C'est ce que Zuckerman raconte au début de Pastorale américaine. « Faites quelque chose de votre vie, foncez, devenez pleinement américain, construisez-vous une vie, qu'elle ait un sens, n'hésitez devant rien ». Et en même temps, il y a cette idée « attention, attention, ça peut revenir demain, il faut faire attention à chaque pas ». Et cette contradiction-là a rendu les gens comme Roth, et certainement Roth dans sa jeunesse, fous de colère. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, il fallait trancher dans le vif, quoi. Et une bonne part de l'œuvre de Roth consiste à creuser ce double injonction « je peux tout faire, je ne peux rien faire, tout est dangereux ». Cette tension qu'on trouve à l'œuvre dans presque tous ses livres, de manière comique, ou de manière pathologique, ou de manière tragique.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans Indignation, Marcus Messner, Messner, ça rappelle Messer, le père est boucher en yiddish, c'est assez rigolo, parce que, Roth, je fais juste une petite parenthèse, tous les pères ont des métiers très précis et qui sont décrits de manière extraordinairement précise. C'est-à-dire le gantier,
Loulevov. Ce sont des artisans.
Ce sont tous des artisans.
Ils fabriquent,
exactement. Oui. Ils travaillent avec leurs mains. Et donc, dans Indignation, le père est boucher. Le père fou d'inquiétude. Et d'ailleurs, le fils meurt ou meurt pas, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a pas obéi au père.
Voilà, il meurt en Corée.
Mais je voudrais dire une chose sur les mères. Parce que les mères aussi tiennent une certaine place. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Coleman. Dans le complot, la mère Bess est quand même beaucoup plus inquiète que le père, a beaucoup plus peur, et c'est elle qui tient la famille parce que le père est plus foutraque, Et la mère, dans Indignation, est quand même celle qui scelle le pacte avec son fils. Je ne divorce pas, le trope d'ailleurs du malheur des enfants qui frappent parce que les parents ont divorcé, ça existe dans plein de romans d'autres. La mère fait promettre à son fils de ne jamais se marier avec Olivia, à condition qu'elle-même ne divorce pas de son père qui l'a rendue folle avec son
Pourquoi elle
ne
veut
inquiétude.
Pas qu'il se marie avec Olivia? J'ai oublié
ça. Parce qu'elle est suicidaire.
Ah oui, d'accord.
Et d'ailleurs, Roth a des pages absolument extraordinaires où il dit qu'elle prépare sa mort dans la cache-route, c'est-à-dire en se vidant de son propre sang, tel un animal abattu dans le rite juif. Et la mère est tellement inquiète pour son fils qu'il vive avec une femme suicidaire qu'elle lui fait promettre de ne jamais... Et il obéit.
Une petite citation de son livre « Les faits ». « La sagesse de mon père passe par le récit et son répertoire n'a jamais été vaste. Famille, 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 Newark, 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 juif, 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 un peu comme le mien, dit-il, un peu comme le mien. » Et alors, c'est vrai, c'est un fils rebelle et en même temps, patrimoine est une véritable déclaration d'amour à son père. Son père qui était rigoureux, un peu borné, justement. Tout le monde devait agir d'une seule manière. C'était tout sauf l'esprit d'un romancier. Mais enfin, il y a cet amour. Et d'ailleurs, le livre a eu un immense succès. Il faisait des tournées avec des lectures. Et une des confidences qu'il m'a faites à ce moment-là, il était presque embêté parce qu'il me dit « I am loved ». On m'aime. Il s'est plus dans cette situation, effectivement, dans la communauté juive, il s'est frappé d'anathème. I am loved. Mais, d'un autre côté, vous disiez, je voudrais aussi souligner un autre aspect de la génération de Roth. Il vit dans une Amérique qui est la terre des possibles.
Oui.
Rien n'est interdit aux Juifs. L'antisémitisme, à l'époque, peut-on dire, était résiduel. D'ailleurs, comme en France, mais peut-être plus qu'en France.
Oui, plus, beaucoup.
Plus qu'en France. Et en même temps, ses parents était très inquiet, d'où une réflexion de Zuckerman tout à fait extraordinaire. « Maman, si tu veux voir la souffrance physique infligée aux Juifs de Newark, va au cabinet de chirurgien esthétique, là où les jeunes filles se font refaire le nez, c'est là que coule le sang juif dans le comté des sexes. » Il était très conscient du contraste entre la tragédie dont il venait et la réalité très prosaïque dans laquelle il vivait, et il ne voulait surtout pas se raconter d'histoire.
Voilà. Et ça, c'est une des grandes lignes de tous ces livres, et certainement de la série des Zuckerman, qui est conçue au départ comme une étude vraiment entre la vie américaine et la vie européenne au départ. C'était d'un côté la futilité, de l'autre côté la tragédie. La futilité libératrice, hein, c'est la phrase qu'il répétait tout le temps aux États-Unis, à l'Ouest.
Everything goes. Everything goes, nothing matters.
Tout est possible parce que rien n'a d'importance. Et en Europe de l'Est, en l'occurrence.
Nothing goes, everything matters. Voilà. Rien ne fonctionne, mais tout importe.
Voilà.
Est-ce que c'est vrai d'ailleurs aujourd'hui dans l'Europe centrale post-communiste?
C'était la guerre froide.
C'était la guerre froide.
Mais c'est une réflexion plus généralement derrière la guerre froide sur le rapport au totalitarisme, à ce qui peut, à la discipline de fer contre la liberté. Ce qu'il a découvert, et c'est l'autre ligne de fracture qu'il y a dans ses livres, enfin l'autre ligne, c'est que dans cette futilité, dans cette notion de tout est possible, qui est très américaine, il y a une ambiguïté. Parce que quand tout est possible, ça veut dire que le pire aussi est possible.
Oui, oui.
La pathologie devient possible. Et c'est ce qu'il raconte dans « Ma vie d'homme », la possibilité de trouver la femme non-juive dans les années 50, l'américaine absolue, elle est tellement américaine qu'en fait, normalisation, il va tomber sur une sociopathe. La sociopathie est la normalité qui est en train de monter. Donc c'est tout là. C'est tout le problème.
Oui, alors, d'un autre côté, j'en reviens à Portnoy, son livre le plus célèbre, cette gigantesque farce, où il est question vraiment du sexe, puisque Portnoy souffre d'une obsession de la masturbation. Donc, il se masturbe dans son gigot. Ça, évidemment, c'est une scène qui est restée fameuse. Mais surtout, il y a une espèce de révolte contre l'obsession juive. Je cite Portnoy. « Juif, 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 elle me sort déjà des oreilles, la saga douloureuse des juifs. Rends-moi un service, mon peuple, et ton douloureux héritage. Foule-toi dans ton cul douloureux. Il se trouve que je suis également un être humain. Mais il n'a pas le dernier mot, parce que sa sœur, la sœur de Portnoy, lui parle et lui dit « Sais-tu où tu serais aujourd'hui si tu étais né en Europe et pas en Amérique ? Tu aurais pu hurler autant que tu aurais voulu, que tu n'étais pas un juif, que tu étais un être humain et que tu n'avais absolument rien à voir avec leur stupide héritage de souffrance. » On t'aurait quand même embarqué et liquidé. Donc, voilà, c'est toujours le génie de Roth, c'est-à-dire, c'est des romans polyphoniques.
Oui, oui.
Même le héros n'a pas le dernier mot. Donc, il y a une espèce d'exaspération à l'égard de l'obsession juive et en même temps, la justification de cette hantise.
Oui, oui, à propos de Portnoy, je crois que Roth a introduit quelque chose de nouveau dans le roman. C'est, alors, il dit quelque part que les deux choses les plus importantes pour les êtres humains sont le désir masculin et la judéité. Je ne sais plus exactement comment il le dit. Il dit c'est très important d'être juif, peut-être autant que la libido masculine. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il le dit. Aucune des femmes qu'il désire, c'est le cas pour Alexandre Portnoy, mais pour toutes les autres, ne sont juives, quasiment. Ce sont toutes des non-juives. C'est ce qui lui a été beaucoup reproché, d'ailleurs, non seulement après Portnoy, mais après plusieurs autres livres où on a fait de Roth lui-même un antisémite.
Il a eu cette raison pesée sur lui très longtemps.
Oui, on en parlera, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il a introduit de nouveau dans le roman, c'est que le sexe est non seulement nécessaire, tragique, mais aussi comique.
Ah oui.
Et ça, c'est quand même un tour de force
absolument.
Dans chacun de ses romans
absolument.
De rendre le sexe à la fois tragique et comique.
Oui, oui, oui absolument.
Oui, oui, il est dans Portnoy, il est deux. Moi, c'est pas mon livre préféré, Portnoy. Hein. J'ai jamais réussi à finir complètement le bouquin.
Ah bon ?
Je me suis forcé. Ça m'a fait rire sur 200 pages, mais au bout d'un moment, j'ai lâché le livre. Et quand je lui ai dit ça, il m'a répondu moi non plus.
Oui.
Il n'avait pas réussi à le finir non plus. Il
est vrai
pas son meilleur.
Que lui, il a souffert de la célébrité.
Il a souffert de la célébrité.
Que lui a valu ce livre, des allusions que lui faisaient les gens dans la rue. Il a été obligé d'ailleurs de quitter New York.
Oui, oui, oui.
Il s'est installé dans le Connecticut, à Warren, mais c'est aussi pour échapper à cette notoriété folle.
Cette notoriété folle et au mode de cette notoriété. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'il y avait un défaut formel dans le livre. En tout cas, la lecture que j'en fais dans La part sauvage de Portnoy, c'est que la masturbation frénétique est une réflexion sur l'assimilation. Une réflexion farcesque sur l'assimilation. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il le dit à un moment donné, et si la masturbation était finalement un symptôme d'une forme de judéité en voie d'assimilation, mais obsédée par le carcan historico-moral dans lequel on a été élevé. Et c'est pas forcément complètement aussi absurde que ça en a l'air, en réalité.
Ah bon, peut-être. En tout cas, c'est audacieux. Moi, j'ai aimé Portnoy à sa sortie, et j'ai été fasciné par ma propre mère, parce que tout le monde était choqué dans son petit monde, et dans la communauté juive en général, et ma mère a adoré ce livre.
Mais les parents de Philippe Roth aussi.
Oui, les parents de Philippe Roth aussi, ils le distribuaient, malgré son obscénité. Donc, je lui suis reconnaissant, et à chaque fois que je lis Portnoy, je pense curieusement à ma mère, avec une certaine reconnaissance. Voilà. Mais autre chose, on va aborder justement un thème moins comique. Vous avez tout à fait raison, Astrid von Bosekis. L'apport de Philippe Roth, c'est le comique dans le sexe. Un peu d'ailleurs, à sa manière, comme Kundera. Mais il y a un autre thème, très présent chez lui, autant que le sexe, la mort. Notamment dans Sabbat, le théâtre de Sabbat, où il va très très loin dans les descriptions sexuelles, jusqu'à peut-être fatiguer certains de ses lecteurs. Mais la mort est au cœur du livre.
Oui.
La mort de Drinka, ouais. L'amoureuse croate, qui meurt tragiquement.
Une des belles scènes du livre.
Une des plus belles scènes
de son œuvre d'ailleurs.
Et à la fin du théâtre de Sabbat, il y a aussi cette visite du cimetière, où il cherche Sabbat, les tombes de ses grands-parents, de ses parents et de son frère, tué dans son avion, dans l'avion qu'il pilotait au-dessus du Pacifique en 1944. Et d'ailleurs, c'est un passage que Roth a lu lors de la cérémonie du 80e anniversaire, la conférence qu'il a prononcée. Il a lu ce long passage. Et puis, il y a ce livre que je trouve déchirant, Un homme. Un homme, c'est la mort d'Ivan Illich du 20e siècle. Un homme, c'est Everyman. Tout un chacun, il n'a pas de nom, mais c'est sa biographie médicale. Et la mort et la vieillesse sont absolument omniprésentes. La vieillesse, c'est pas une bataille, c'est un massacre, dit-il. Il y a aussi ce personnage, Inouï Millicent Farmer, une femme qui est une élève dans l'atelier de peinture du personnage principal. Elle a des douleurs dorsales absolument atroces, est obligée de se coucher, etc. Et elle se suicide au barbiturique, tellement la douleur est insupportable. Et donc, la mort, me semble-t-il, est omniprésente. Parce que c'est la phrase de Kafka, ce qui donne sens à sa vie, à la vie, c'est sa fin.
Oui, c'est qu'elle s'arrête. Ce qui fait le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête.
Oui, c'est qu'elle s'arrête.
Oui, oui, oui il y a une sorte d'ironie. Et certainement, le théâtre de Sabbat, c'est le livre le plus vital et un des livres les plus obsédés par la mort.
Voilà.
Le sexe et la mort. Alors, enfin, c'est l'aspect vraiment dionysiaque de Roth, au sens strict du terme. Dionysos, c'est la divinité de la vitalité, mais c'est aussi la divinité de l'anarchie, du chaos, de la destruction et finalement de la fin. Je cite à un moment donné des peintres dans le livre qui sont de sa génération, en particulier Marc Rothko, qui était juif lui-même. Rothko avait fait toute une série de points définissant son œuvre qui recoupe beaucoup l'œuvre de Roth. Hein, le sexe, la mort, la tension, l'ironie, des choses comme ça. Il y a à un moment donné quelque chose de commun entre tous ces artistes et la révolte, bien sûr. Tout ça va plus ou moins ensemble, à mon avis. Le rapport à la mort, c'est ce qui détermine chez Roth l'exubérance. Parce que l'exubérance, c'est la sensation de l'instant, quoi. Le moment vivant dans tout ce que ça implique de générosité narrative aussi, de puissance narrative, d'énergie anarchique et en même temps de discipline formelle, qui permet à cette pulsion de prendre forme, vraiment. Le rapport à la mort, c'est ce qui permet cet alliage, en fait.
Avant la mort, il y a la vieillesse, et je crois qu'elle occupe énormément de place dans l'œuvre de Roth, et ce qu'est Pêche, par exemple, dans La Bête se meurt, où il y a aussi la mort d'une jeune femme.
Mais
donc,
oui.
Les jeunes meurent aussi.
Oui, mais les jeunes meurent aussi.
Non, ouais.
La mort est omniprésente, mais vous avez aussi, dans Un homme, il est question de la vieillesse. Il y a la question vieillage.
Oui.
La question du vieillage.
Particulièrement Un homme, c'est un livre que j'ai beaucoup de mal à lire parce que c'est le premier livre que je lisais de lui où il n'était pas du tout dans cette exubérance, justement, au contraire. Et il m'a donné le manuscrit au moment où mon père était en train de mourir, donc j'arrivais pas du tout à... En fait, j'ai bloqué.
Et vous l'avez lu depuis ?
Je l'ai lu, oui. Je sais que c'est un grand livre, mais pour moi, ça reste quand même pesant.
C'est un grand petit livre. Il y a eu, me semble-t-il, deux grands petits livres dans la fin de carrière de Philippe Roth, Un homme, qui est vraiment la mort d'Ivan Illich du XXe siècle, et
Némésis, c'est son dernier livre, donc,
oui,
dans lequel il retrouve effectivement quelque chose de la profondeur dans l'analyse psychologico-métaphysique, si je puis dire. C'est le seul livre aussi où il y a une allusion à la religion, Oui. En l'occurrence, le gnosticisme. C'est très intéressant parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose comme ça, non seulement dans son œuvre, mais dans la judéité américaine, dans l'Amérique même, quelque chose de l'ordre de cette idée que le gnosticisme, pour le dire en une phrase, c'est cette idée que le monde est la création d'un démiurge mauvais. Et que s'il y a un dieu, il se situe en dehors du monde, quoi. Et c'est l'explication que donne le narrateur à son propre destin, enfin le personnage principal plutôt à son propre destin. Et Rod discute cette hypothèse en disant en fait c'est une faiblesse psychologique de raisonner comme ça, c'est une façon de déléguer son rapport à la vie
à une instance.
Mais c'est pas complètement définitif dans le livre.
Oui. En tout cas, c'est très intéressant parce que donc le héros de Némésis, Bucky Cantor. Pour lui, le personnage important n'est pas le père, mais le grand-père. En tout cas, Bucky Cantor, une épidémie de poliomyélite éclate en 1945 à Newark. Donc là encore, c'est comme dans Complot contre l'Amérique, une uchronie. Ça n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu avoir lieu. Et il part à un moment donné, il s'occupe d'un camp de vacances, il part... camping.
En fait, ce qui se passe, c'est que le personnage qui ne peut pas aller faire la guerre, il veut aller faire la guerre contre le nazisme. Et comme il ne peut pas, il décide de faire la guerre comme il peut, c'est-à-dire de lutter contre le virus, de la polio, là où il est à Newark. Et il va s'occuper des enfants de Newark. Sauf que, évidemment, on lutte pas contre un virus à main nue, et que les enfants de Newark commencent à mourir comme des mouches, à tomber comme des mouches. Et donc, le narrateur est furieux et humilié, et sa fiancée l'invite dans une sorte de paradis dans les Catskills, champêtre, qui n'est pas touché par le virus. Et donc, il y va, plus ou moins à contre-cœur, avec l'impression de déserter. Il va retrouver sa fiancée. Et puis, évidemment, ce qui doit arriver arrive. Dans les Catskills, les enfants commencent à être atteints de la polio aussi. Et il pense qu'il est lui-même porteur du virus.
Et il l'est, d'ailleurs.
Il est porteur sain. Il est possiblement porteur sain. Et ce qu'il est à ce moment-là, on ne le saura pas.
Ce qui est très intéressant, pour revenir justement au Kaddish, il a tout refusé, vous dites, Philippe Roth. Mais... son héros, donc Bucky Cantor, assiste à un moment donné à l'enterrement d'un de ses enfants. On récite le Kaddish, et dans le Kaddish, on rend gloire au Seigneur.
Ouais.
Et Bucky Cantor ne peut pas supporter cette expression. Et donc il y a quelque chose aussi de la révolte de Bucky Cantor dans le refus de Roth de ce cérémonial.
Voilà.
Pourquoi le Kaddish, dès qu'on entend ces paroles, on va pas faire gloire au Tout-Puissant de ce qu'il est au moment de la mort, et en plus de la mort des enfants.
Voilà, et puis on est au milieu du XXe siècle, on est en pleine Shoah, comment est-ce qu'on peut... Il y a tout ça en arrière.
Il y a tout ça, bien sûr.
Et quand j'ai posé la question, il m'a dit, si j'étais religieux, je penserais comme ça, mais je ne suis pas religieux.
Oui, mais je ne suis pas religieux, oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, son personnage cherche des raisons. Le Dieu est coupable, et après, finalement, c'est lui.
Oui.
C'est lui qui est porteur du virus, etc. Et Philippe Roth dit précisément qu'il lui faut trouver une nécessité à ce qui se passe. Il faut qu'il se demande pourquoi, que cela soit gratuit, contingent, absurde et tragique ne saurait le satisfaire. C'est un maniaque du pourquoi. Et il trouve le pourquoi soit en Dieu, soit en lui-même, ou encore de façon mystique, mystérieuse, dans leurs conditions redoutables, pour former un destructeur unique.
Voilà.
Donc toujours est-il, voilà, c'est un maniaque du pourquoi, alors que le romancier, lui, protège en tout cas la contingence. Et d'ailleurs, le héros de Passeur à l'américaine, lui-même, cherche un pourquoi.
Mmh.
C'est aussi un maniaque du pourquoi, parce que sa fille...
C'est un père aussi, on parlait des pères tout à l'heure, c'est un père exemplaire.
Un père exemplaire, sa fille est bègue, il pense que c'est sa faute, et de bègue, elle devient militante,
terroriste.
Et de militante, elle devient terroriste. Et après, enfin bref, il y a toute sa trajectoire absolument effrayante, qui détruit complètement Seymour Lefort, mais lui-même cherche un pourquoi. Or, Philippe Roth dit, la tragédie de l'homme qui n'est pas fait pour la tragédie, c'est la tragédie de tout homme. Donc, il est là pour veiller, en quelque sorte, sur la contingence, même avec Complot contre l'Amérique. C'est-à-dire, ce qui a eu lieu aurait pu ne pas avoir lieu. Se prémunir contre l'illusion de la fatalité.
C'est l'histoire potentielle de Benjamin. C'est-à-dire que pour regarder vers l'avant, il faut d'abord regarder en arrière et tester ce qui aurait pu être le comme-si. Mais je voudrais faire une toute petite nuance sur, encore une fois, pour revenir au Dieu qui châtie, au Dieu qui est à l'extérieur, au gnosticisme, etc. Il y a quand même pas mal de scènes où on cherche le pourquoi, mais où c'est l'individu, le narrateur, Roth lui-même, son double, son triple, qui doivent prendre des décisions. Et il y a beaucoup de scènes qui se passent et où il se rappelle de sa classe de Talmud Torah, où il n'a absolument rien appris, il ne connaît pas l'alphabet, il ne parle pas l'hébreu. Et dans Opération Shylock, il est enfermé, je sais pas si vous vous souvenez, pendant des heures et des heures dans une classe de Talmud Torah, et est écrit au tableau une phrase de la Genèse, la lutte de Jacob contre l'ange, qui n'est pas traduite d'ailleurs. Il ne la traduit pas. Elle apparaît en lettres hébraïques dans le texte. Et c'est son épreuve existentielle. Et d'ailleurs, pendant cette épreuve existentielle, je réponds à Alain à votre question du pourquoi. Ben, le pourquoi, il est en nous. Il n'y a que nous qui pouvons le dire. Il n'y a pas de cause extérieure. Roth n'est pas un écrivain à thèse. Donc c'est le narrateur qui doit tester sur lui-même, en l'occurrence, où il veut aller. Et dans cette situation où il est enfermé, eh bien, c'est la même épreuve que Jacob devant l'ange, d'une certaine manière.
Mark Witzman.
La némésis, c'est ce que j'appelle dans le livre la part sauvage. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et
c'est ça.
Et là, toute la question est de savoir pourquoi ça vous tombe dessus. Est-ce que ça peut être l'histoire? Ça peut être en vous? Ça peut être votre nature profonde? Une des discussions.
Ou un détail.
Une des discussions qu'on a dans le livre, c'est ça. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on est responsable de ce qui nous arrive? Comme Européens, élevé dans la tradition freudo, tout ce qu'on veut. Moi, j'avais tendance à penser qu'on est plus ou moins responsable de ce qui nous arrive. Rod disait, mais pas du tout. On se construit une vie, on réussit. On en vient à Coleman Silk. On se construit la vie qu'on peut se construire, qu'on veut se construire, on se bat pour. Et au moment où on a gagné, quelque chose arrive parce que quelque chose doit bien se produire, parce que ces événements se succèdent.
Et il n'est pas sûr qu'il y ait un pourquoi.
Il n'est pas sûr qu'il y ait un pourquoi.
Et d'ailleurs, c'est arrivé à Coleman Silk, ça arrive encore plus aux Suédois, Seymour Lewoff, cet athlète exemplaire qui a tout réussi dans la vie.
Je ne sais pas lequel de nous deux avait raison, mais ce qui est sûr, c'est que comme technique littéraire, accumuler les explications plausibles sans s'arrêter à aucune définitivement, c'est redoutablement efficace. Parce que ça donne une forme de vraisemblance. Tout y passe, la psychologie, la sociologie, l'histoire, tout ce qu'on veut. Tout est plausible et rien ne vient finalement expliquer le truc. Donc, simplement en termes de stratégie littéraire, un bouquin comme Pastorale américaine est un chef-d'œuvre juste comme ça.
Oui, ah oui, absolument. C'est un de ses grands chefs-d'œuvre. Alors, c'est le romancier de la contingence. Il cherche les explications. Aucune n'est vraiment satisfaisante. Et c'est aussi un écrivain de la spécificité. Philippe Roth, tient d'ailleurs, c'est ça le roman pour lui. Par rapport aux essais, à la philosophie. Il tient à la spécificité. Et il y a ce passage devenu célèbre de « J'ai épousé un communiste » où Zuckerman propose à son jeune professeur, à l'époque, une pièce qu'il a écrite, « Le pantin de Torquemada », une pièce sur le maccartisme. Parce qu'on est à l'époque du maccartisme. Et la réaction du maître est absolument terrible. L'art comme arme, l'art qui prendrait les positions qu'il faut sur tous les sujets, l'art qui se ferait l'avocat du bien commun. Où êtes-vous allé chercher ça? Qui vous a dit que l'art est une affaire de slogan? Qui vous a dit que l'art est au service du peuple? L'art est au service de l'art, sinon il n'y en aurait pas qui mérite l'attention. Mais c'est pas l'art pour l'art non plus, c'est l'art pour la vérité. C'est ça, l'art est au service de l'art. Et il y a cette phrase ensuite, maintenir le particulier en vie dans un monde qui simplifie et généralise, c'est la bataille dans laquelle s'engager. C'était la bataille dans laquelle s'engager, c'est aussi aujourd'hui cette bataille, parce que de tous les côtés, on simplifie et on généralise.
Oui, complètement.
MeToo, ça veut dire toutes les femmes subissent exactement le même sort. Et il n'y a plus de singularité, et il y a cette phrase maintenant devenue très connue, quand on généralise la souffrance, on a le communisme, quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Et ça, c'est quand même, non pas le slogan, mais le mot d'ordre littéraire de Philippe Roth. Astrid von Bosigis.
Oui, juste un mot, parce que Marc en parlera sans doute mieux que moi. Pour revenir à la causalité, elle est terrifiante parce qu'elle est fasciste, la causalité. C'est-à-dire, s'il y avait un pourquoi, inutile d'écrire des romans et inutile de faire l'histoire. Roth, je crois, est très attaché à l'événement, on disait le détail tout à l'heure, au sens arendtien. C'est-à-dire, il arrive quelque chose qui déraille, qui fait toujours dérailler les trajectoires individuelles. Mais pour revenir à votre question, oui, Roth est à la fois un portraitiste, et un peintre de fresques, les deux, puisqu'on parlait de l'art, c'est-à-dire du singulier, mais aussi du général, au sens du fond historique qui lui inspire toujours les histoires. C'est-à-dire, si on veut savoir quelque chose sur l'histoire de l'Amérique, sur ses guerres réelles, la Corée, le Vietnam, et aussi sur ses guerres culturelles, il faut lire Roth. Enfin, je veux dire, c'est le fond général, la fresque, c'est l'histoire américaine, et l'histoire juive, évidemment, et le portrait, ce sont chacun de ces personnages singuliers qui veulent aussi dire qu'ils sont singuliers parce qu'ils n'appartiennent pas à la tribu, comme on le disait tout à l'heure.
Oui. Oui, oui, absolument.
Marvin Smann.
Absolument. Sur l'absence de pourquoi, l'absence de cause identifiable, il y a ce qu'il appelait, ça sonne mieux en anglais, the unforeseen, l'imprédictible, ce qui arrive sans qu'on l'ait vu venir du tout. Et c'est une des choses, c'est aussi un des sens de la part sauvage, et c'est une des choses qui rend son œuvre extrêmement contemporaine à travers ce que vous venez de dire sur l'histoire et sur les déterminants historiques qui encadrent son œuvre. C'est l'un des grands paradoxes. Alors que le tissu sociologique de ce qui a fait son œuvre historique a pratiquement disparu, la classe moyenne juive victorieuse telle qu'il la dépeint, qui n'existe plus comme telle aujourd'hui aux États-Unis. En revanche, la sensation que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, est vraiment ce qui détermine notre époque. Et c'est là-dessus qu'il réfléchit constamment. C'est vraiment la chose en laquelle qu'il le rend vraiment extrêmement contemporain, il me semble.
Absolument. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Astrid von Bosekis, merci Marc Westman aussi. Et je rappelle les titres de vos livres. Astrid von Bosekis, l'ère des impostures, avec Oleman Sik et d'autres usurpateurs d'identité. Marc Westman, La part sauvage, chez Grasset, où il est essentiellement question de Philip Roth. Je signale aussi que vient de paraître un nouveau volume des romans de Philip Roth dans la Pléiade, avec Opération Shylock, le théâtre de Sabbat, le complot contre l'Amérique, Exit le fantôme. Voilà, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Maëlle Larfa-Saur. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre De l'amitié. Mes invités seront Alice Fernet et Anne Serre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.